Bonjour et bienvenue à ce nouveau programme de la paix en chanson. Celui que nous recevons aujourd'hui est un haut cadre dans le domaine des finances. Il est spécialisé dans la mobilisation des ressources pour les projets d'investissement. Actuellement conseiller technique au ministère de l'économie et des finances et conseiller spécial du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il a été par ailleurs représentant résident de la Banque mondiale au Niger et en Guinée. Et du haut de ce palmarès, c'est un passionné de musique et surtout de jazz. On saura par exemple comment la musique l'aide dans son travail au quotidien et comment cela se matérialise. En tout cas, nous avons avec nous un fan de Amédée Pierre. Et voilà, les férus de musique, les puristes ont pu reconnaître la mélodie de ce titre L'Orougnon Rabé d'Amédée Pierre, interprété par Emmanuel Yaté au clavier. Et c'est aussi un fan de jazz, je le disais, de jazz, de blues, de soul. Et fidèles auditeurs et auditrices de la paix en chanson, recevons monsieur Siaka Bakayoko. Bonne arrivée dans la paix en chanson.
Bonjour monsieur Koulibaly, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Très heureux de vous recevoir. En tout cas, avec vous, on parlera de votre parcours, mais aussi on parlera des chansons qui continuent de vous accompagner, que vous aimez véritablement et qui font partie de votre playlist.
Ah oui, effectivement.
Et on en a une pléthore, hein, plusieurs chansons comme ça.
J'adore. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que quand je regarde Yaté, il est tout jeune, je ne sais pas s'il connaît Amédée Pierre, il arrive bien à jouer. L'Orougnon Rabé, c'est excellent, et puis bon, c'est ça, j'aimerais tout dans mon environnement.
Voilà, alors musique. On aura l'occasion justement d'écouter ce titre en intégralité, on dira avec un extrait bien trouvé par Ahmed Morrison et puis Emmanuel Yaté au cours de cette émission. Mais avant, on va chercher à faire plus ample connaissance avec vous, monsieur Siaka Bakayoko. Vous voyez le jour à Bois.
Oui.
Alors, vous êtes venu, les parents sont venus dans cette région-là pour des raisons particulières. Et comment
oui,
ça se passe, cette migration?
Le père était fonctionnaire à l'agriculture. Ouais, ouais. Il a commencé sa carrière, je crois, à Benjerville, Dabou, Gagnouama. Ouais. Et puis, il est arrivé à Boisflay dans les années 50, où je suis venu avec tous mes frères. Et puis, bon, nous sommes de Boisflay, quoi.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce qui est important et intéressant, voilà, d'appartenir à toutes les régions du pays. Et Boisflay, quand vous entendez, vous évoquez ce nom, qu'est-ce qui vous revient véritablement?
Boisflay, ça rappelle des souvenirs, la forêt, la verdure et puis le Banama. Qui était à l'époque, je ne dirais pas une rivière, c'était une mer. Parce que le Banama était immense. Et chaque année, il y avait des crues. Et ça envahissait des quartiers entiers. Et puis, on avait du poisson, on apprenait à nager dans l'eau. C'était extraordinaire.
Ah.
Et puis, bon, quand tu dis la forêt, tu dis la pluie. Mmh. On était habitué à tout ça et on ne peut pas s'en passer. Il arrive souvent aujourd'hui, avec la saison des pluies, il tombe des pluies où je retrouve Boisflay. Des années 60 et des années 70.
Ouais.
Mais c'est bien l'enfance, mais ça ne vous quitte jamais.
C'est ça. Alors, quels étaient ces moments clés de votre enfance à Boisflay? C'est vrai, vous avez évoqué justement la présence de ce fleuve-là, le Bandama, très impressionnant, les rivières et tout. Et votre attachement à la nature, elle est à quel niveau en termes de degrés?
Oui, je dirais que je suis un féru de la nature, dans ce sens que j'aime beaucoup le plein air. Et faire des randonnées en montagne, en forêt, et également aller en rivière. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Lorsque nous grandissions, le Banaman, et tous les jeudis et tous les dimanches, parce qu'on ne partait pas à l'école, à partir de 14h, on partait nager au Banaman. Alors c'était intéressant parce qu'il fallait se cacher pour ne pas que les parents le sachent. Nous partons au Banama. Mais malheureusement, lorsque vous reveniez à la maison, la peau était toute blanche et les yeux étaient rouges. Et les parents savaient qu'on était parti au Banama, mais on ne pouvait pas s'en passer. Il fallait y aller. Tous les jeunes de notre âge y étaient. C'est là-bas qu'on jouait au football, c'est là-bas qu'on se racontait des histoires parce que nous habitions des quartiers différents. Mais le Banama était le nexus où tout le monde se croisait pour parler. Ça, on ne peut pas oublier cela, ça m'a marqué. La forêt, pourquoi? Et souvent, pendant les vacances de Noël ou de Pâques, avec des amis, on faisait des petites randonnées pour aller chercher soit des oiseaux, soit des rongeurs, les rats, les agoutis. Et il y a toute une vie autour de cela qui faisait que nous n'étions pas tout le temps enfermés à la maison. Nous avions les parents, les aînés qui nous encadraient, c'est vrai. Mais dans la journée, nous avons encore la possibilité d'aller nous développer, d'apprendre d'autres choses. Mmh. Et c'est là aujourd'hui, quand j'y vais, je vois mes neveux, mes cousins à Boisflay, je pense que beaucoup de choses leur manquent. Mmh. Beaucoup. Parce que tout se limite à la télévision, aux réseaux sociaux, mais ils ne font rien d'eux-mêmes. Nous créions. Mmh. Parce que dans la forêt, en partant, on faisait des huttes. Mais c'était beau, ça paraît extraordinaire, mais c'était facile. Mais on partait faire des huttes où on vivait. Bon, pas toute la journée. À 10h, vous allez vous devenir à 16h. Mais c'était de la créativité. Aujourd'hui, non plus ça. Mmh. Parce qu'il n'y a plus de forêt.
Oui. Et c'est fini. Et pour vous, vous avez mal quand vous voyez cette situation-là. Et il y a la dégradation de la forêt. La Côte d'Ivoire ne cesse de perdre, on dira, son couvert forestier. Mais il y a beaucoup d'actions et des facteurs. Hein. Aujourd'hui, on a l'orpaillage clandestin, très développé dans nos forêts. Quel est votre regard face à tous ces dangers-là?
Et l'orpaillage clandestin, ou bien l'orpaillage purement et simplement, je trouve que ça a été très mal maîtrisé par nos populations. Quand ils ont entendu parler de l'orpaillage, tout le monde s'y agitait.
Pourtant, il y a l'orpaillage légal aussi.
Bien sûr, justement, voilà. Parce qu'on peut le légaliser, mais malheureusement, cette route n'a pas été choisie et tout le monde s'est jeté dans tout azimut. On a cru qu'on pouvait devenir millionnaire du jour au lendemain. Mmh. Ce qui veut dire que les jeunes ont abandonné soit les écoles, l'agriculture et d'autres activités génératrices de revenus. Tout le monde est devenu orpailleur. Mmh. Les jeunes dames qui faisaient le commerce aujourd'hui, elles vont sur les sites d'orpaillage pour faire de la nourriture pour les orpailleurs. Et c'est des kilomètres à aller. Et malheureusement, tout le monde n'est pas millionnaire. Parce que les pépites, on n'en trouve pas comme ça. Mmh. Pour que tu apprends que Jean-Paul est devenu riche à cause de l'orpaillage. Mmh. Jean-Paul sur 1000 enfants, c'est zéro. Mais les autres continuent. Mmh. Et en même temps, l'environnement se dégrade parce que toutes ces zones d'orpaillage sont devenues aujourd'hui des paysages lunaires. Vous avez des cratères partout. On ne peut plus faire de l'agriculture ni de l'élevage. C'est perdu. Mmh. Et donc, on avance toujours, on avance toujours, on avance toujours. Et toujours, il n'y a pas de milliardaires. Mmh. Ce n'est pas la solution.
Et la forêt est touchée, mais les ressources naturelles telles que l'eau aussi.
La forêt a disparu.
Ouais.
Et l'eau, c'est encore catastrophique parce que qui dit orpaillage clandestin veut dire que tout est fait dans la clandestinité totale. Mmh. Alors, les produits chimiques, le cyanure, qu'on déverse automatiquement dans les cours d'eau, qui aujourd'hui ont envahi les fleuves comme le Panama, il n'y a plus de poissons. Mmh. On ne peut plus pêcher dans le Banormand parce que le poisson que vous allez pêcher, il est déjà nourri au cyanure, c'est un danger pour toi. Et on ne peut même pas aller nager dans le fleuve aujourd'hui parce que les risques sont trop grands, tous ces produits chimiques. Alors là, pour la consommation, parce que l'adduction d'eau en ville, ça vient du Banormand. Nous sommes réellement en danger. Mmh. Mais l'orpaillage, ce n'est pas la solution. Mais on peut en faire une solution. Ah, on va en parler plus tard.
Bien sûr.
Mais pour dire que de la manière dont c'est approché, ce n'est pas la solution. Mm-hmm. Mais ça peut être une solution.
Bien sûr.
J'ai mes idées sur ça que je pourrais développer plus
bien
tard.
Bien sûr. C'est ça l'objectif, justement, à travers cette émission La Paix en Chanson. On est aussi en quête de solutions, justement, pour faire avancer les choses et améliorer le quotidien, ou on dira la vie des populations, des habitants et de tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, un peu partout sur le territoire national. Voilà, Monsieur Siaka Bakayoko, nous sommes toujours à Boisflay. Mmh. Et à Boisflay, vous allez à l'école. Oui, oui. L'école, c'est EPP Biaka
Bouda.
Ah oui.
Une école que j'appelle une école d'élite.
Ah oui.
Pourquoi? Parce que c'était les premières écoles après l'indépendance qui ont été faites et nous avons eu des maîtres qui étaient fabuleux, qui étaient extraordinaires. Vous avez dû connaître quand vous allez à Boisflay aujourd'hui, on vous parle de M. Youma Dibi Michel, qui a été directeur de cette école. Nous sommes tous passés dans ses mains. C'était un éducateur qui avait la main ferme. Mmh. 20 ans après, il s'est rappelé de nous. Ah, Siaka, ça va? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors là, il fallait être à l'heure à l'école. Il fallait travailler et quitter l'école à l'heure.
Ouais.
Donc ça nous a formé. L'école Biaka Bouda est là aujourd'hui. Mmh. C'est comme ça.
Et est-ce que vous tirez les valeurs au quotidien, dans votre vie, dans votre travail, de ce que vous avez vécu à partir de cette école-là et comment cela se manifeste?
Aujourd'hui, ça m'a appris d'abord trois choses essentielles.
Ouais.
Qu'il n'y a pas d'autre voie au succès sauf le travail. Si vous travaillez, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Mmh. Et quand une fois vous faites ça, mais aussi la discipline. Il faut être discipliné. On peut travailler, mais si on va dans tous les sens, on n'aura jamais de résultats. Mais lorsqu'on est discipliné, cela vous donne la possibilité de travailler de façon plus intelligente et pour aller vers des résultats qui sont plus concrets.
Mmh.
Et l'autre, c'est l'amour de ton prochain.
Mmh.
À Boisflay, vous avez toutes les ethnies. Vous avez les Malinkés, les Morés, les Gouros, les Ayaou, les Yorés, tout ceci. Mais nous vivions en parfaite intelligence. Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Ali Youda,
mmh.
De la télévision. Et Siaka Bakayoko.
Oui.
Et Lo Edouard. Quoi qu'on firme, fait à son âme. Nous sommes d'ethnies différentes. On se faisait appeler des frères parce qu'on était proches. Nous vivions ensemble. Par exemple, le dimanche, on partait à Garango. C'est le village moré qui est à la sortie de la vers Dalois. Nous passions la journée là-bas. Et eux, ils venaient chez nous parce qu'ils venaient à l'école à Boisflay. Alors c'était ça, donc l'amour du prochain, ça a permis de créer un environnement qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et j'étais absent de la Côte d'Ivoire pendant longtemps.
Mmh.
Et mes parents me disaient, des amis, que la crise post-électorale, oui, elle a frappé toute la Côte d'Ivoire. Mais à quoi à Boisflay, il n'y a pas eu d'effet aussi catastrophique qu'ailleurs. Parce que déjà, cette cohésion existait.
Mmh.
Voici les valeurs que j'ai retirées de Boisflay.
Ah ouais.
Ils sont encore là.
C'est ça. Alors, c'est aussi un élément important à Boisflay, cette cohabitation entre les communautés. Il y a une forte communauté halogène venue de d'autres pays qui ont même créé des villages, qui se sont installés, des enfants qui sont nés là. Et vous citiez à l'instant Ali Youda, mmh. Voilà, venu de parents du Burkina Faso. Il est né ici, dans cette localité-là. Là, ivoirien. Et aujourd'hui, quelle est la leçon que vous tirez de ce brassage-là culturel? C'est une force pour une région, une localité, un pays?
Moi, je pense que ce brassage doit être conçu comme un modèle de développement. Une autre anecdote.
Oui.
De par ma fonction, j'ai beaucoup voyagé. Je suis venu une fois en vacances, c'était dans les années 2000, j'avais fait un tour à Garango, Koudougou ou Koupéla.
Mm.
Je dis, je parle du Burkina Faso. Les gars me regardaient des yeux bizarres de quoi ils parlent.
Mm-hmm.
Pour dire que ces personnes, dont les parents sont arrivés dans les années 30, qui ne sont plus là, sont nés aujourd'hui là, qui sont donc des Ivoiriens apparentés, il n'y a pas de doute sur ça. Ils ne connaissent pas le Burkina Faso.
Ouais.
Je leur parlais du Burkina Faso alors qu'on les traitait de Burkinabé. Pour dire que. Alors, mais ça a créé une force de travail.
Mm-hmm.
Parce que ces personnes ne se sentaient pas étrangères. Elles se sentaient du terroir et nous travaillons ensemble. Mais c'est ça la beauté de Boisflay. Aujourd'hui, quand vous allez, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une ville Gwo, Yoré, Ayaou, Malinké, Moré? Tout le monde est chez lui à Boisflay. C'est un peu comme on le dit, la plus grande ville comorienne, hein, le Comore,
mm-hmm.
c'est le Havre. Aujourd'hui, la plus grande ville gourou de Côte d'Ivoire, c'est Boisflay. La plus grande ville gourou et morée de Côte d'Ivoire, c'est Boisflay. Et, enfin, c'est ça Boisflay.
Ouais.
Et la grande ville pour tout le monde se retrouve.
D'accord. Et Boisflay, ce qui frappe aussi, ce sont les couleurs. Hein. Le violet, généralement, qu'on voit, qu'on aperçoit, et un peu partout sur tous les édifices, même les engins, les taxis. Alors, cette couleur-là, quelle est l'origine ou est-ce que vous avez une anecdote peut-être sur cette couleur-là, le violet de Boisflay?
Oui, si cette couleur est née lorsqu'on a créé le CO Boisflay.
Ah.
Dans les années 78-79, où paix à son âme, il y avait un certain monsieur Traoré.
Mm-hmm.
qui avait créé CO Boisflay. Et là, on ne pouvait plus prendre jaune et noir, vert et rouge, tout ça. Il fallait trouver une couleur. Là, il a proposé cette couleur qui, au début, ne nous plaisait pas.
Mm-hmm.
Mais en même temps, et c'est là, c'est très beau à voir, il a créé une machine sportive qui gagnait. Donc, cette couleur a commencé à être permanente. Tous les dimanches, on la voyait. Et nous portions tous des t-shirts et ceci, cela. Et la couleur a fini par s'imposer. Parce que si vous vous rappelez, peut-être vous étiez encore jeune. Le CO Boisflay, dans les années 80, arrivait à battre l'Africa, la SEC. Ah non, je ne parle pas d'aujourd'hui. Hein. Non, l'équipe était bonne.
Ouais.
On avait des joueurs comme Assemian,
ouais.
Kofi, et qui étaient des stars.
Qui tenaient.
Et des vrais footballeurs. On n'avait peur de rien. Alors, donc, il a mis cette machine sportive à gagner. Et c'était la couleur de l'équipe. Et donc, on la voyait tellement régulièrement sur les grands stades, sur les photos de Fraternité Matin et Consort, la couleur a fini par s'imposer. Et paix à son âme, le ministre Déby, quand il est venu, qui aussi était un meneur d'hommes, il a trouvé que c'était une opportunité.
Mmh.
Il a encouragé Boisflay à en faire sa couleur. Aujourd'hui, la mairie, et les grands édifices, les taxis, voici la couleur de Poifflé. Aujourd'hui, on aime cette couleur. Et elle est belle en photo aussi.
Bien sûr.
Belle en photo.
Et en ramenant justement l'usage de cette couleur-là dans votre vie, j'ai constaté que votre biographie que vous m'avez envoyée, j'ai vu qu'il y avait du violet. Et je voyais au Poifflé, je vois du violet. J'ai dit, ben attends.
Dans le subconscient.
Ah, voilà. Tout naturellement.
Oui. Et vous voyez, si vous êtes un peu curieux, oui. La danse de Zaouli. Aujourd'hui, quand on voit les habits danser, c'est cette couleur qu'il porte. Hein. C'est le violet, le blanc et tout ça. Parce que c'est devenu notre couleur. On ne réfléchit plus, on va vers ça comme ça.
L'Orougnon Rabé, Amédée Pierre. Beaucoup de souvenirs en écoutant ce titre.
On a eu des grands musiciens à Côte d'Ivoire.
Ouais.
Le fond musical, les paroles et tout ça. Et puis Amédée Pierre, il a vraiment chanté. C'est-à-dire, on me dit, il put his heart out. Mm-hmm. Il a vraiment chanté.
Ouais.
Je
ne
sais pas s'il a fait un morceau aussi bon que ça. Bien sûr, on parle de
Soklope,
tout ce qui est L'Orougnon Rabé, je crois que c'est extraordinaire.
Ouais.
Si je comprends Bété, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dit, mais c'est extraordinaire.
Merci beaucoup, Siaka Bakayoko, qu'on recevait aujourd'hui dans La Paix en chanson. Et voilà, on rappelle que notre invité est conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances. Il a été aussi conseiller spécial du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Et c'est un haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Il a été représentant résident au Niger et en Guinée, mais il a aussi servi dans plusieurs pays à travers le monde, dont en Palestine, en Israël, voilà, Guinée, Niger, on le disait, Madagascar, en Italie aussi, avec d'autres fonctions. Merci beaucoup, c'est un passionné de musique, et vous le constatez. Et on se dit au revoir avec ce titre de Amédée Pierre, L'Orougnon Rabé.
Merci.